Bien, bonsoir tout le monde. Je pense qu'on va commencer, il est l'heure. Bonjour, bonjour au public. Nous allons commencer cette réunion par une intervention de Madame la Présidente de la Communauté de Communes, que je suis très heureux d'accueillir, Madame Simian, qui va nous présenter l'activité de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux en 2020. Alors c'est un peu tardif, mais forcément ça ne peut se faire qu'à partir du mois d'octobre. Et puis on avait des conseils municipaux un peu chargés, donc on lui a demandé de venir aujourd'hui, et on la remercie. Voilà.
Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me lève, j'enlève le masque.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Je remets le masque.
Oui, comme vient de me dire Christian, en effet, donc en fait, ce bilan, la communauté de communes envoie chaque année le rapport d'activité. Il arrive en général en septembre-octobre dans les communes. Il est donc à disposition de tout le monde. Et l'idée, c'est que le président ou la présidente présente ce bilan d'activité. Donc 2020, évidemment, ça a été une année un petit peu particulière. On le sait tous. Déjà parce que la moitié de l'année, c'était Jean-Marc Audergon et l'autre moitié, ce fut moi à partir du mois de juillet. Pendant l'année donc 2020, la communauté de communes, donc j'étais pour information pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maire des AU depuis 2014, et en 2014 j'étais aussi vice-présidente à la communauté de communes en charge de la culture et des solidarités. Donc en 2020, au niveau des travaux de la Comcom, à part le premier confinement où les gens ou le personnel était en autorisation spéciale d'absence, en ASA, en télétravail, nous, les élus, on se réunissait en visio. Bon, on a fait comme tout le monde, on a testé des solutions et puis finalement, ça a pu marcher. Donc, en fait, je ne veux pas vous raconter tout l'ensemble de ce qui a été fait, mais vous avez l'année 2020 et la CCDB en détail dans ce document. Par contre, la communauté de communes, donc, je pense qu'il est intéressant aussi de vous redonner une notion de compétence. Une intercommunalité, elle est faite à partir du moment où l'État a demandé à ce que les communes se retrouvent, se regroupent et transfèrent des compétences. Le transfert des compétences, soit il a été obligatoire, soit il a été choisi par les communes. Mais dans tous les cas, nous, à l'heure actuelle, la communauté de communes, en termes de compétences obligatoires, on a l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire l'aménagement, le développement du territoire, l'aspect activité agricole. Et on est la compétence du SCOT, puisque donc nécessairement notre communauté de communes est représentée à travers moi en tant que vice-présidente du SCOT et à travers deux délégués qui sont Geneviève Morenas ici présente et Marc-André Barbe de la Bécu de Mazin. Ensuite, dans les compétences obligatoires, on a l'action développement économique. Le SCOT, SCOT, schéma de cohérence territoriale. Ça veut dire, je précise, accrochez-vous, ça va être un grand document, un très grand document qui va en fait chapeauter l'ensemble de tous les documents qu'on peut avoir, à savoir les programmes locaux de l'habitat, notre PLH, les PLUI si on en met un, les PLU que vous avez, les cartes communales en termes d'urbanisme, et etc. Le SCOT est là pour réfléchir à un ensemble d'orientations en termes de mobilité, santé, développement économique, etc. Un grosso modo, on est à 8 EPCI dans le SCOT, notre schéma SCOT Rhône Provence Baronnie. Vous pouvez y aller, c'est un site web SCOT Rhône Provence Baronnie. Il y a 8 EPCI, c'est-à-dire ça va de Pierrelatte, Bolène, le long du Rhône en Ardèche, Montélimar, nous, les Baronnies. Donc ça s'étale beaucoup vers l'ouest. Et c'est des entités très différentes, comme vous pouvez l'imaginer. La partie le long du Rhône, qui est très industrielle, et nous, avec les baronnies, un côté très rural. Enfin voilà, tout ça pour dire que l'idée, c'est d'arriver en 2026 à écrire le SCOT pour avoir les grandes notions de mobilité à travers tous ces EPCI, industrialisation ou pas, agriculture, tout ce qui est ressources en eau, enfin tous les points qu'on imagine, nous, vous, à travers votre PLU, c'est la même chose au niveau du SCOT, mais au niveau grandeur XXL, on va dire. Voilà, c'est une obligation, et donc il faut y aller, mais les études ont commencé pour deux des commissions qui sont en route. Je continue concernant la communauté de communes, après cette petite parenthèse, c'est plus clair ? Enfin, plus clair, je ne sais pas. Voilà. En termes de compétences obligatoires, il y a les, donc comme je disais, l'action de développement économique, avec la gestion de nos zones d'activité, donc notre vice-président actuel, c'est Marc Ebrard, ici présent. Promotion du tourisme, dans ce genre de choses. Ensuite, on a aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Donc pour l'instant, on a la compétence, mais on n'est pas obligé, en termes de la loi, de les mettre en place, parce qu'on est une toute petite interco, on est moins de 10 000 habitants. On a la collecte et le traitement des déchets ménagers et la gestion des milieux aquatiques à travers la taxe GEMAPI, qui a été mise en place en direction, je ne sais pas si vous savez, que donc tout ce qui concerne les cours d'eau, nous on a délégué à travers des syndicats, le SMBVL, le syndicat mixte du bassin versant du Lez, et le syndicat SMBRJ de bassin du Roubion et du Chabron. Dans les compétences optionnelles, on a la protection et la mise en valeur de l'environnement, c'est-à-dire la gestion des espaces naturels sensibles. Donc a priori, notre interco était susceptible de gérer les espaces naturels sensibles. Sur Delphi, ça ne s'est pas fait comme ça au départ, c'est comme ça. Par contre, l'Interco va donc intervenir à l'espace naturel sensible de Mielandre avec la commune, en partenariat avec la commune de Vesque, pour la gestion de cet espace-là. Donc, comme je disais, on a la gestion des cours d'eau, mais ça, c'est à travers les syndicats. La politique du logement et du cadre de vie. En fait, dans la politique du logement et du cadre de vie, on n'a qu'une chose qui est inscrite. Son intérêt communautaire, c'est le, enfin plusieurs choses, mais c'est des trucs très précis. C'est le PLH, le programme local de l'habitat, qu'on a donc validé en 2018. Puis, tout ce qui est les OPA, ça va vous intéresser particulièrement, parce qu'il y a les OPA et rues qui arrivent bientôt. Et le programme d'intérêt général, le PIC, qui existe déjà sur le territoire concernant les transitions, les changements d'habitat, l'amélioration de l'habitat et éventuellement l'amélioration de chaque logement. Si ça peut être vu à travers nos structures qu'on met en place par le PIG. Ensuite, on a des actions sociales, tout ce qui concerne la petite enfance, la jeunesse, les crèches, les centres de loisirs, etc., etc. Et on a aussi en compétences optionnelles la création et la gestion des maisons de services au public. Dans les compétences facultatives, on a différentes choses, comme les soutiens aux associations du territoire. On a donc deux règlements pour les soutiens aux associations, enfin un règlement pour les associations culturelles, pardon. Et dans le cadre de développement économique, on a mis en place aussi un règlement de soutien à l'investissement pour les entreprises. On a la gestion de la maison de la céramique, les politiques contractuelles d'aménagement du développement de l'État, l'entretien, la trésorerie, on l'a plus, ça y est. Et on a la participation à la fourrière animale, plus l'enseignement musical, à travers donc le KM que vous connaissez tous, et évidemment la fibre. Donc ça, c'est rapidement toutes nos compétences, et ces compétences, elles sont donc déclinées à travers des commissions. Donc jusqu'en juillet 2020, il y avait 9 commissions, et donc et c'est le contraire, maintenant c'est 2021, on en a 9. Donc, je ne vous cite pas les anciens, mais je vais vous citer les présents. Donc, Geneviève ici présente commission défi climat habitat, Éric Bouvier pour le tourisme, la gestion des décès, toujours Philippe Bérard, la petite enfance jeunesse, Nicole Sylvestre de Pont-de-Barré, développement économique, donc Marc ici, l'agriculture, forêt, gestion d'espace, Alain Jeune de Vesque, culture et solidarité, c'est Yves Magnien de Le Poitlaval, travaux bâtiments, Thierry Didier de Bordeaux, et enfin information de communication, Bernard Delpal. Voilà, ça c'est très rapidement. En termes de budget, pour parler chiffres, parce que ça change un peu des budgets communaux. Ben, vous êtes une grosse commune, donc ça va vous faire moins peur, mais pour les petites communes en général, ça se reprend un peu. Donc en termes de budget, en 2020, le budget de fonctionnement, c'était 5,4 millions d'euros, à peu près. Et dans le budget d'investissement, c'est 2,5 millions d'euros. C'était Un budget d'investissement, c'est comme une commune, en fait, ça change chaque année, c'est en fonction de ce qu'on a choisi d'investir ou pas. En fait, une communauté de communes fonctionne à peu près comme une commune au sens où vous avez certainement un bureau des adjoints. En fait, il y a donc un bureau au sein de la communauté de communes avec tous les vice-présidents que je vous ai cités qui s'occupent des commissions. Après, il y a un conseil communal, pour un conseil municipal pour vous, et nous, on a un conseil communautaire qui valide comme les délibérations, comme pour vous en commune. En plus de ce budget général, il y a 4 budgets annexes, mais je ne vais pas vous les développer. Si ça vous amuse, vous trouverez tout dans le document. En termes de personnel, il y a 22 agents permanents. Et en plus de ces 22 agents permanents en 2020, il fallait rajouter tous les agents saisonniers qui s'occupent des centres de loisirs, les stagiaires, etc. Donc à peu près, pour le fonctionnement des 3 crèches du pays de Gelfi-Bourdeaux, il y a 25 personnes qui sont employées quand même. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau du personnel. Je rajouterai qu'on a un service commun d'archivistes, qui est que vous avez aussi, hein, qu'on se partage. En parallèle à ça, en termes de services, il existe, on est donc, on participe au groupement d'action locale, le GAL Porte de Provence, pour tout ce qui est des financements leaders, les financements de la région, de l'Europe, pardon, je dis n'importe quoi, de l'Europe. Donc ce groupe, ce GAL Porte de Provence, en fait, c'est 2 EPCI, c'est la CAMA, la communauté d'agglomération Montélimar, et nous, à Comcom. Et c'est comme le leader, c'est des financements qui est à destination tout ce qui est plutôt rural, c'est la communauté de communes Gelfi-Bourdeaux qui le gère. Voilà. Parallèlement à ça, on a la compétence fibre optique. Bon, je ne maîtrise pas où est-ce qu'on en est au niveau du développement de la fibre optique, mais on a donc un délégué qui s'en occupe, et on soutient plein d'autres organismes que je ne vous citerai pas tous, mais par exemple, un truc qui est ancien, c'est le syndicat de la télévision. On participe au financement de ce syndicat de la télévision parce que dans les années 95, 96, je crois, je ne sais plus, il y a eu le développement de la 5 et la 6, et il a fallu mettre en place des émetteurs, et c'est ce syndicat qui a permis à tous les Drômois d'avoir la télévision 5 et 6. Et il faut continuer à entretenir ces émetteurs qui appartiennent à ce syndicat, par exemple. Voilà. Et dans d'autres trucs particuliers, on a quelques subventions à d'autres associations qui ne sont pas des associations culturelles, mais par exemple le portage des repas. Mais c'est vraiment des choses qui sont à développement intercommunal. Voilà, à peu près. Hein, un rapide tour de tout ça. Vous trouvez tous les chiffres là-dedans, je ne vais pas vous abréger. Puis vous avez 2 VP ici qui sont en fait même pour vous donner toutes les infos régulières. Voilà, si vous avez des questions, je ne vais pas vous embêter très longtemps. C'était juste pour me présenter et vous présenter la Comcom.
Non. Il faut dire qu'on a un certain nombre de membres du conseil communautaire, donc on suit un peu, mais enfin il y a, je ne sais pas si vous avez des questions, c'était un peu ardu avec tous ces sigles. C'est vrai que ce SCOT, ça a l'air, c'est un peu lointain, mais en même temps voilà, c'est des décisions de l'État qu'il faut qu'on assume, c'est ça.
Moi, je voulais juste rajouter que la communauté de communes, donc depuis les élections dernières, a fait un choix fort, puisque c'est un choix avec un fil directeur qui est le plan climat, qui avait été voté sur la mandature précédente et qu'on a repris à bras-le-corps et qu'on mène, je pense, de façon volontaire, et où on sera bientôt amené à voter, à valider le plan d'action en début d'année prochaine. Voilà. Et puis, juste pour répondre à une question qui a été vaguement formulée à côté sur la fibre optique. La fibre optique, elle arrive sur Gelfi. Il y a déjà des personnes qui tournent et qui repèrent où est-ce qu'ils peuvent poser des prises pour pouvoir après mettre des armoires pour des grappes. Voilà, donc ça avance.
Et on va voter tout à l'heure pour une demande de l'entreprise qui suit ça. De mettre des poteaux et un fil au-dessus d'un terrain communal. Donc on va peut-être l'autoriser.
La voie verte, on a délégué la, on a délégué au syndicat de bassin de la CBRJ. Et bah, ils avaient défini un tracé. Entre-temps, je sais que la région a voulu prendre la compétence avec... parce que Montélimar-Aglo, ils ont aussi une envie de faire une voie verte pour faire un, une boucle complète sur Montélimar. Je sais qu'ils en sont en discussion. Je ne sais pas du tout s'ils ont, ils essayent de faire les deux en parallèle ou si déjà le tracé qui est en place au niveau de la voie verte va continuer là-dessus ou pas.
Oui, non, simplement je voulais dire qu'il restait, oui, c'était, le tracé est pratiquement défini, sauf qu'il reste encore, suite aux dernières modifications, quelques études d'impact à faire, qui sont donc, qui concernent le milieu naturel. Donc il risque d'y avoir encore peut-être quelques petites modifications, mais bon voilà, c'est en principe le tracé est arrêté, donc ils vont passer aux phases ensuite avant projet détaillé, contacter les propriétaires, etc.
Non, juste pour préciser qu'on en parlait justement au niveau du conseil municipal et autant pour le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, de faire venir la directrice pour qu'elle puisse venir un peu expliquer en début de conseil municipal de quoi il en retourne et où on en est. Et pareil pour la Belle-Route Voie Verte, que vous ayez une information un peu plus précise et un peu plus large, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop de loin.
J'ai deux précisions. La première que je n'ai pas dit, mais c'est bien de, que tout le monde soit au courant, c'est qu'on est filmé, donc on est en liaison avec tous ceux qui veulent nous regarder, nous écouter chez eux. Et la deuxième, c'est qu'à la dernière réunion du syndicat du Roubion et du Jabron, dans laquelle je suis délégué de la communauté de communes, j'ai posé la question sur, le, sur les délais, sur le, les travaux de cette future voie verte jusqu'à Dieulfi. Et le président m'a parlé de 6 ans, entre 6 et 8 ans. Voilà, donc c'est, faut être patient. Ça va venir. Mais il faut être patient. Ben, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut trouver les financements, il faut faire le circuit. Alors maintenant, c'est pas mal avancé. Il faut contacter les propriétaires. Ceux qui sont d'accord, ça va. Ceux qui sont pas d'accord, il faut discuter des prix. Faut, voilà. Donc, c'est pas tout de suite, Mais ça, ça va venir. Pas d'autres questions ? On va remercier. Il y a des places, hein, si on t'a gardé une place, si tu veux. Bien. Un grand merci pour cette, cet exposé.
Voilà, dans le 3.
Bien. On va, mais on va prendre le, la marche du conseil municipal officiel. Donc je vais faire l'appel. Patrice Benoît. Nadia Nelson. Christian Bussa, présent. Alain Chauville. Vincent Doma et a donné une procuration à Geneviève Morenas. Valérie de Marbieux.
Présent.
Bernard Delpal a donné une procuration à Christophe Mancini. Marc Ébrard.
Présent.
Laurence Gérard.
Présent.
Jacques Glaise.
Présent.
Vanessa Huguenin.
Présent.
Sylvain Jean.
Présent.
Marie-Madeleine Leclerc.
Présent.
Anne Iliag a donné une procuration à Jacques Glaise. Christophe Mancini,
présent.
Nicole Marcel,
présent.
Marion Martin,
présent.
Magali Miani,
présent.
Geneviève Morenas,
présent.
Nathalie Paulin a donné une procuration à Sylvain Jean,
présent.
Merci. Camille Perrin, procuration à Laurence Girard, Frédéric Sten,
présent.
Et Arnaud Thévenot, procuration à Marion Martin. Voilà, merci. Qui est-ce qui veut être officiellement secrétaire de séance ? Frédéric, merci. Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal du conseil municipal du 8 novembre ? Des remarques ? Non ? Donc, qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce ? Une abstention ?
Oui, Nathalie, n'était pas là.
Nathalie, merci. Qui est-ce qui vote contre ? Merci, adopté à l'unanimité. Super. Moins une abstention, tu as raison.
Monsieur le maire, excusez-moi.
Oui.
Avant d'attaquer l'ordre du jour, est-ce que je pourrais faire rajouter à l'ordre du jour un point important ? C'est le rapport sur le prix et la qualité des services du syndicat des eaux. C'est une obligation. Le document a été transmis au secrétaire général. Voilà. Il est important de le passer aujourd'hui. Voilà.
Un rapport sur les prix
et la qualité de l'eau, oui. C'est
d'accord.
Un rapport annuel, bien sûr.
C'est un rapport donc de l'activité de 2020.
Oui. La même chose que le rapport que vient de faire
Okay.
Voilà. Bon. Donc si on peut le rajouter, ce serait bien. C'est une obligation légale.
D'accord.
Merci. Et là, on se propose de vous faire le rapport succinct, peut-être avec Marc, il n'y a pas de souci. Hein, sur sa partie, et puis moi, je vais enclencher sur le reste. Voilà. Merci.
Ok, donc on va passer à la délibération numéro 1, la création d'un poste d'adjoint administratif 25 heures. Marion, qui va nous expliquer ça.
Bonsoir. Donc je vais vous proposer à la délibération ce soir donc la création d'un poste d'adjoint administratif pour 25 heures suite à un besoin au service urbanisme. Parce qu'aujourd'hui donc on a un agent au service urbanisme qui a mi-temps. Et voilà, c'est un service qui demande beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Donc je vais vous proposer donc de voter pour la création d'un emploi. Donc cet emploi, il serait donc sur 25 heures semaine, avec 19 heures consacrées à l'urbanisme, afin de créer un temps plein pour le service urbanisme. Et il y aurait 6 heures en plus donc pour du secrétariat, parce qu'il y a des vrais besoins également de petits renforts, on va dire, dans le service ressources humaines et dans le service état civil. Voilà, donc ça serait un poste à pourvoir à compter du 1er février. Donc je vous propose à la délibération donc, de modifier ainsi le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce que vous avez des questions ?
Je me demandais pourquoi, enfin on n'était pas au courant de la création de ce poste. Quelle est la raison pour laquelle on a besoin d'un agent administratif et quelles vont être ses missions et ses tâches et...
Alors, du coup, on vous propose de délibérer pour créer ce poste ce soir suite à vraiment un constat donc du manque au poste urbanisme. Avant, le poste urbanisme était un poste à 30 heures. Aujourd'hui, donc, l'agent qui est en poste ne peut pas faire plus qu'un mi-temps et donc est là à mi-temps. Donc, il y a un vrai besoin au niveau de l'urbanisme. Donc, nous, on le propose au vu des dossiers d'urbanisme qui passent. On propose même d'augmenter pour faire un temps plein, puisque sur une commune de notre taille, le service d'urbanisme nécessite un temps plein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à créer ce poste. Et en voyant un peu tous les services, c'est vrai qu'il y a aussi un petit besoin de renfort aux ressources humaines et à l'état civil. Donc c'est pour ça qu'on rajoute quelques heures, 6 heures hebdomadaires, donc une journée qui sera consacrée plus en soutien de secrétariat aux ressources humaines et en état civil. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, je vais vous demander de voter, s'il vous plaît. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, qui est pour ?
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Donc, la délibération numéro 2... concerne la prime annuelle que la commune donne aux agents. Alors cette prime jusqu'à présent était de 800 euros par an. Elle est. Ce montant date d'une délibération de 2004. Donc il nous a semblé qu'il était plus que grand temps de faire un petit geste. Et donc nous avons, nous vous proposons de passer cette prime de 800 euros annuels à 900 euros annuels. Ces 100 euros correspondent en plus à une prime qui était distribuée en mars de manière un petit peu, comment dire, informelle. Les uns avaient beaucoup, les autres n'avaient pas du tout. Donc voilà, on a décidé de réintégrer dans la prime annuelle cette prime du mois de mars qui était un petit peu particulière. Voilà. On aurait eu envie de faire un peu plus, mais voilà, cette année, on s'est dit que c'était, on pouvait pas non plus aller trop loin, donc on augmente de 100 euros cette année. C'est la proposition. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, monsieur le maire, une petite question, merci. Donc, moi, je suis allé visiter un peu les centres de gestion qui expliquent un peu comment fonctionnent les contrats de droit privé. Donc, cette prime, ce que j'ai compris, c'est pour les personnes qui sont sur des contrats d'aide à l'emploi ou d'insertion. Je crois que Marion a le...
Oui, en fait c'est une prime qu'on donne à tous les agents.
Alors
Et pour qu'on puisse la donner aux agents qui sont en contrat, sous contrat, les 4 ou 5, les 5 agents qui sont sous contrat, on est obligé de passer une délibération.
Voilà, et ça, je suis d'accord. Seulement, ils disent bien qu'il faut que ça soit stipulé sur le contrat des agents. Enfin, c'est pas des agents, c'est contrat droit privé. Et donc, la délibération, elle doit être, ça doit bien être stipulé, la dénomination de la prime et le montant. Donc, le montant là, mais après, il faudrait peut-être rajouter qu'est-ce qui motive cette prime? Il faut mettre un terme. Pour être dans les règles. Après, moi, je ne m'oppose pas à la prime. Hein. Je pense qu'elle travaille aussi bien que tout le monde, mais c'est juste pour être dans les clous.
Ok. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient si c'est indispensable, mais je ne sais pas. On a repris la dernière délibération qui avait été prise à ce sujet et on n'avait pas trouvé de...
Non, je me permets juste parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence sur ce sujet et voilà. C'est pour pas que la mairie soit en défaut.
Je précise que cette prime est versée au prorata temporis, c'est-à-dire qu'un agent qui est à mi-temps touche la moitié, hein, bien sûr. Voilà, est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci à l'unanimité. Délibération numéro 3 sur la mise en œuvre du RIFSEPT. Je vais laisser le soin à Marion de nous expliquer ce que c'est.
Merci. Alors, donc la mise en place du RIFSEPT, donc le RIFSEPT, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est le nouveau dispositif indemnitaire qui a été mis en place pour la fonction territoriale, qui doit être, donc, qui a été mis en place à partir de 2014. Donc là, aujourd'hui, nous, on le met en place aujourd'hui. Il se compose donc de deux éléments, l'IFCE et le CIA. Donc, l'IFCE, c'est l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise. Donc voilà, qui vise donc à valoriser l'exercice des fonctions et qui constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Et donc, le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel, dont le versement est facultatif et lié à l'engagement professionnel. Voilà. Donc, il y a la délibération derrière moi. Donc, la mise en place de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, l'IFSE. Donc, le principe, c'est voilà, l'indemnité principale, comme je viens de le dire. Donc, c'est une formalisation précise de critères professionnels et on prend en compte aussi donc, l'expérience professionnelle de chaque agent. Chaque emploi ou cadre d'emploi est réparti donc, en différents groupes au vu des critères professionnels. Voilà, donc suivant les fonctions d'encadrement, de technicité, voilà, les degrés d'exposition, etc. Donc les bénéficiaires, donc dans la limite des textes, ce sont donc les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, ainsi que les agents contractuels de droit public à temps complet, non complet, partiel, pour une ancienneté de 6 mois, de service cumulé de 6 mois. Voilà. Et pour celle-ci, les agents de droit privé ne bénéficient pas de cette indemnité. Alors, ensuite, il y a le paragraphe suivant, donc c'est la détermination des groupes de fonctions et des montants maximaux. Donc, c'est composé d'un montant de base, modulable en fonction des individus, et c'est dans la limite d'un montant précisé par l'arrêté ministériel. Donc voilà, vous pouvez voir dessous le tableau avec toutes les catégories, les critères de catégorie en fonction pour mettre en place l'indemnité. Est-ce que vous voulez qu'on détaille les critères? Ça vous va? Ça va?
Il y a des questions?
Oui, je répondrai aux questions. Donc le montant de l'IFSE, il peut être réexaminé en cas de changement de fonction, bien sûr. En cas de changement de grade, s'il y a une promotion pour l'agent, ou à minima tous les 4 ans, si l'agent reste donc pour les mêmes fonctions, pour le même grade, et donc ça sera en fonction de l'expérience acquise par l'agent durant ces 4 ans. Les modalités de maintien ou de suppression des FSE. Donc, en cas de congé maladie ordinaire, l'IFSE sera maintenu. Donc, pour les congés annuels maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption, l'IFSE sera maintenu. Et en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE sera suspendu. Donc la périodicité de versement, c'est donc un versement mensuel au prorata du temps de travail effectué. Voilà. Et donc la clause de revalorisation, ça on ne peut pas grand chose, c'est les arrêtés ministériaux qui en décident. Voilà donc pour l'IFSE. Maintenant je vais vous parler un petit peu du CIA, donc complément indemnitaire annuel. Voilà, c'est un peu le même principe, donc je vais aller un peu plus vite. Hein. Il est lié à l'engagement professionnel. Par contre, donc ce qui change, c'est que son versement est facultatif et non reconductible d'une année sur l'autre. Voilà, donc les bénéficiaires sont les mêmes, les agents titulaires, temps complet, non complet, les agents contractuels à temps complet, non complet, selon une ancienneté de service de 6 mois. Ensuite, donc il y a les groupes de fonctions. Donc c'est les mêmes groupes. Il y a juste les critères qui changent, entre l'IFSE et le CIA. Pour ce qui est des modalités de maintien et de suppression, on est sur les mêmes modalités que pour l'IFSE. Par contre, donc pour la périodicité, pour le CIA, on arrive donc sur un versement annuel qui ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Et donc, par contre, le montant sera également proratisé en fonction du temps de travail. Donc, les clauses de revalorisation, c'est toujours les arrêtés ministériels qui les fixent. Donc, voilà. En fait, ce principe de ce régime indemnitaire de RIFSEP, c'était l'idée, donc quand ils l'ont mis en place, c'était de lisser un peu toutes les primes qui, dans la fonction publique, pouvaient être multiples, qui pourraient y en avoir 5, 6, c'était assez impressionnant. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir toutes ces primes en deux primes plus précises. Voilà, donc ça, c'est le dernier chapitre parle de ça. Effectivement, précise que suite au RIFSEP, donc, il ne pourra plus se cumuler avec un certain nombre d'indemnités qui existaient avant, puisque du coup, toutes les indemnités sont réunies dans l'IFSE. Voilà. Il y a toujours quelques indemnités qui peuvent être cumulables, donc les dépenses engagées comme les frais de déplacement, les dispositifs d'intéressement collectif, les heures supplémentaires, les astreintes, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous préciser? Donc cette délibération prendra effet au 1er janvier 2022. Si, ce que j'ai oublié de préciser qui est très important, c'est que donc, la mise en place du RIFSEP ne diminue aucune indemnité actuelle touchée par les agents. Et à l'inverse, du coup, ça a permis de lisser un peu voilà, certains... on va dire écart
certaines anomalies.
Certaines anomalies, c'est un très bon. Voilà, qui était dû au nombre d'indemnités énormes, qui était un peu une usine à gaz. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Dites-moi si vous avez des questions. Ah, Daniel a eu.
Je viens de me rendre compte qu'il y a un manque dans la phrase que je viens d'afficher. Là, dans le CIA, effectivement, son versement est facultatif et non reconductible automatiquement. Lui, il y avait son autre. Donc ça veut dire qu'il peut l'être, mais qu'il ne l'est pas forcément. Voilà.
D'accord.
Automatiquement, parce que ça peut.
Alors, si tu es juste au détail, il y a un endroit où tu as écrit deux fois, il y a écrit deux fois la même phrase. Bon, je rechercherai, je te dirai tout à l'heure. Alors, je fais voter.
En fait, je pensais juste dire un petit mot, c'est que l'idée de l'État, c'était de regrouper toutes ces primes qui sont, c'est vrai, assez incompréhensibles. IFTS, IAT, IEMP, PSR, ISS, et d'en en faire plus que deux. Et de mettre des montants maximum, parce que y a des communes où les primes étaient absolument gigantesques. Voilà, ça ne concernait pas la Tulfi, loin s'en faut, mais l'idée c'était de clarifier un petit peu cette situation. Ça a été voté, ça a été promulgué en 2014, c'est un gros boulot, donc ça n'a pas été fait dans les années passées. Mais on a décidé de le faire parce qu'il fallait quand même se mettre à jour.
C'était obligatoire, c'est ça?
Oui, mais c'était déjà obligatoire les fois d'avant. Ça fait un moment que c'est obligatoire.
Oui, Alain.
J'ai une question. On vient de voter la prime annuelle. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Est-ce qu'elle rentre dans une des deux cases? C'est pas les mêmes personnes?
C'est celle-là. C'est IA.
À partir de l'année prochaine, ça changera à partir de l'année prochaine. Cette année, c'est encore...
C'est encore la prime annuelle comme il y a toujours eu. Et à partir de l'année prochaine, ça sera... La prime annuelle, ça sera appelée le CIA.
Donc, en 2022, c'est l'année prochaine, la prime sera dans le CIA ou pas?
Oui.
Ouais. Uniquement pour ceux de droit privé.
Tu as entendu la réponse? Ça dépend si c'est droit public ou droit privé.
D'accord. Ah, je sais que... Oui, c'est bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je vais vous demander de voter, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, merci beaucoup. Donc je continue avec une nouvelle délibération donc sur le temps de travail. Donc là c'est tout simplement se mettre à jour réglementairement parlant. Voilà, donc il y a une loi donc, du 6 août 2019 qui prévoit la suppression des régimes dérogatoires des 35 heures donc, et un retour obligatoire aux 1607 heures effectuées à l'année pour donc, les personnes à temps complet en 35 heures. Alors, il y a un petit tableau de calcul des heures annuelles. Je vous laisse regarder quelques secondes. Le temps de travail peut également être annualisé, voilà pour les services qui ont des périodes de forte activité ou de faible activité. Voilà. Alors, ensuite, il y a les garanties minimales. Est-ce que vous voulez que je vous les liste ou je vous laisse lire? Voilà, vous voyez ce que c'est? Très bien. Voilà, donc ce qu'il faut que l'on délibère ce soir, donc, c'est les cycles de travail. Donc c'est, pardon, plus proche, les cycles de travail. Donc voilà, de dire que ces 35 heures peuvent être effectuées par semaine sur 5 jours, sur 4 jours ou sur 4 jours et demi, ou alors ça peut être des cycles annualisés. Et ensuite, du coup, que la journée de solidarité sera effectuée donc sous la forme d'un jour habituellement férié autre que le 1er mai, donc voilà, par exemple le lundi de Pentecôte, ou elle sera travaillée voilà sur la forme d'une retenue des jours d'un jour de RTT, ou d'un temps de travail supplémentaire réparti sur l'année. Voilà. Donc la présente délibération entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Geneviève, tu veux? Voilà, sur la répartition des indemnités de fonction des élus.
Alors, on s'est donc retrouvé un an après avoir délibéré pour le premier tableau d'indemnité en septembre 2020. Et comme il y a des élus qui ne sont plus élus, voilà, des personnes qui ne sont plus élues et d'autres qui sont rentrées dans l'équipe, il a fallu remodeler tout ça. Donc, on propose évidemment sans modifier l'enveloppe globale, en restant à la même enveloppe globale de... Vous devez avoir sous les yeux plus rapidement que moi. 9 000... Attends, voilà.
9 297.
Voilà, 9 297 euros. On propose donc de faire rentrer dans les indemnités, bien sûr, les trois personnes qui sont rentrées en cours d'année, donc Marie-Madeleine Leclerc, Nicole Marcel et Arnaud Thévenot. Voilà, il y a d'autres petites augmentations à la marge qui n'apparaissent pas forcément sur le tableau, mais qui ont été faites pour compenser certains d'entre nous qui travaillent plus ou qui sont... voilà, on a tenu compte du temps de travail, on va dire ça comme ça, et de l'engagement. Voilà, principalement. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, je vais vous demander de voter. Qui est pour? Eh ben, je change. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Non, on va peut-être expliquer le oui. Pourquoi de notre vote. Bah, tout simplement, une nouvelle fois, on n'est pas au courant de pas grand-chose à ce tableau. Il nous est présenté sur un écran, on ne l'a même pas vu, ni rien. Geneviève, tu nous parles de 9 000 et quelques euros. C'est pas 9 000, hein. Ça coûte 11 000 euros à la commune, et non pas 9 000. 9 000, ouais. C'est ce que vous gagnez, ou ce que l'on gagne, parce que vous savez qu'on a 50 euros.
Attends voir.
Et oui, c'est noté derrière. Voilà, donc voilà. Puis après, pour les sommes, oui, certaines nous paraissent.
Par exemple, 10 900 euros.
Voilà, c'est à mon goût pas tout à fait pareil. Et puis, on va parvenir sur les montants, etc., et sur la notion de la vocation, même si je me souviens que Magali nous a dit que le rôle d'élu se professionnalise, etc., etc. Certes, mais il y a quand même une vocation. Et cette vocation, quand je vois certains montants, très clairement, je ne m'y retrouve pas, moi. Donc voilà, après, c'est mon appréciation, c'est ma façon de voir les choses, et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai voté contre, et Nathalie Pollin aussi. Voilà.
Okay. Et moi aussi, pour les mêmes raisons que j'avais déjà expliquées au moment de la répartition des différentes indemnités des élus, qu'on ne peut pas confondre une indemnité et un salaire. Voilà.
Tu veux dire quelque
J'aimerais juste faire une remarque. J'aimerais juste faire une remarque sur le fait que ces indemnités et la manière dont on essaie de les répartir, au mieux, hein, c'est pas très facile. L'idée, c'est quand même aussi de permettre à des gens qui ont des enfants, qui ont un travail, qui du coup sont obligés d'abandonner une partie de leur temps de travail, de participer, de s'engager aux côtés de la commune. Et c'est, je pense, un élément important qui fait que ben, y a pas que des retraités. Il y en a beaucoup, hein, parce que bon, je vais pas faire le compte, mais on est quand même assez nombreux retraités. Cette répartition un petit peu novatrice, hein, parce que c'est quand même assez rare dans le monde politique que la répartition soit faite comme ça, permet à des, je ne vais pas citer de nom, hein, mais à certains d'entre nous de participer et de prendre leur place. Donc voilà, j'assume ce choix d'essayer de répartir de manière un petit peu plus compliquée, hein, c'est compliqué à faire, hein, et à refaire, c'est pas plus simple non plus.
Oui, alors c'est ouais. Exactement ce que je voulais préciser, je te laisserai la parole après Marc, et puis je crois que Marion veut parler aussi. Ça nous permet quand même, c'est difficile à faire, hein, cette répartition est difficile, mais ça nous permet d'avoir des jeunes, et si on ne veut pas avoir que des têtes chenues autour de la table, c'est une des conditions.
Oui, moi je voulais ajouter, j'ai éventuellement une certaine légitimité à ajouter quelque chose, puisque si vous regardez sur le tableau, c'est moi qui ai la plus petite indemnité de tout le tableau. Mais moi j'y tenais, c'est-à-dire que je me suis dit, moi j'ai pas envie de faire tout le mandat avec que des retraités. Je tenais à ce que les jeunes s'investissent. Je pense en particulier par exemple au cas de Marion ou de Magali, qui sont des gens qui ont quitté une partie de leur emploi, qui ont accepté de gagner moins, pour pouvoir s'investir sur la commune. Donc moi qui suis à la retraite, qui ai un salaire fixe, qui n'ai pas de soucis, j'ai compris que pour eux c'était un vrai problème. Et j'ai préféré donner une partie substantielle évidemment de l'indemnité et de rester sur du symbolique. Parce que vraiment je voulais travailler avec eux. C'est une discussion qu'on a eue bien avant les élections, où on était parti sur ce principe.
Oui, ben voilà, moi effectivement je suis la première concernée par tout ça. Aujourd'hui, actuellement, je passe beaucoup d'heures à la mairie parce que ça m'intéresse, ça me passionne. Il y a beaucoup de choses à faire et j'ai deux enfants en bas âge. Et si je n'avais pas cette indemnité, il faudrait que je travaille. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je n'ai pas le temps de travailler à côté de ça. Sinon, je ne vois plus trop mes enfants et je n'ai pas envie de ça. Et je remercie, enfin j'ai vraiment envie de remercier l'équipe. Et je pense que c'est important qu'on puisse permettre aujourd'hui de changer un peu les systèmes de voilà, politique actuels et qu'on puisse permettre ça. Et voilà. Et du coup, je vous remercie tous de nous le permettre. Voilà.
Merci. On a voté. Oui, on a voté. On va passer donc à la délibération suivante concernant les tarifs municipaux. Alain, si tu trouves un micro.
Ça va pas être très compliqué, dans la mesure où on reporte les conditions 2021 en 2022. On rajoute simplement une ligne. Pour des demandes pour des marchés ponctuels qui n'étaient pas précisés jusqu'à maintenant et qui faisaient l'objet de difficultés pour encaisser dans la comptabilité officielle. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, c'est quoi les marchés ponctuels ? Je vais laisser Vanessa expliquer ce que c'est qu'un marché ponctuel.
Bonsoir à tous. Il arrive que nous ayons des demandes sur la commune de Dulphy d'associations extérieures qui souhaitent venir faire à la journée des ventes, donc au déballage.
Et nous avons donc eu des cas l'été dernier où on a des demandes. Et en fait, lorsque ces personnes payent leur droit de place, il s'avère qu'il n'y a pas de ligne écrite correspondante sur les tarifs. Sur les lignes de comptabilité, ça reste un encaissement marché. Mais quand le placier, lui, doit l'enregistrer dans son TP, il n'a pas de ligne correspondante afférente. Ce qui fait que ça permet là, en rajoutant cette ligne, d'être plus clair au niveau de la législation communale sur les encaissements sur les parties régies.
Alors, donc ça veut dire que, par exemple,
le camion pizza, il est...
Le camion pizza, il a un abonnement, il est sur les marchés du mardi, c'est totalement autre chose. Lui, c'est un régulier, c'est un abonné, il fait partie des marchés hebdomadaires du mardi.
Le maraîcher qui est au Raymond ?
Le maraîcher qui est au Raymond, c'est le marché du mercredi qui est en cours d'ouverture, puisqu'il faut une demande d'autorisation des organismes professionnels pour ouvrir des marchés sur la commune. Et nous devons faire une demande et nous devons leur laisser un mois de délai pour nous répondre. Donc nous sommes pour le moment sur l'ouverture d'un nouveau marché le mercredi au Lavoir.
D'accord.
Et donc ce n'est pas non plus celui-là. C'est pas encore cette ligne-là. C'est pour d'autres lignes. Si vous voulez un exemple très précis, on a la Balade des Artisans, qui est une association qui est au Teil, qui demande régulièrement tous les ans à venir faire 3 journées de marché sur du Lefi en juillet et en août. Donc c'est la Balade des Artisans, ils viennent faire, ce sont des professionnels, c'est des artisans, ils viennent faire de la vente au déballage, ils demandent à venir donc s'installer dans les rues du village, donc pour ça il y a un droit de place obligatoire, et donc il nous faut pouvoir les encaisser. Et pour les encaisser, nous n'avons pas de ligne qui corresponde précisément à ce fait-là.
C'est très clair, merci.
Avec plaisir.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions particulières, je vous propose de délibérer. Qui est pour... Qui est pour... Voilà, c'est ça. Unanimité totale et absolue. Merci.
Bravo, Alain.
Merci. La délibération numéro 8 concerne une convention avec le KM. J'ai passé la 7 déjà ? Ah oui, j'ai passé la 7. Excusez-moi, c'est moi qui la présente, qui est une délibération, là encore, un peu réglementaire, qui concerne l'engagement de dépenses d'investissement avant l'adoption du budget. Le budget de la commune est adopté en avril. Et il peut y avoir des dépenses entre janvier et avril. Il y a des dépenses, notamment concernant l'investissement. Et donc, je vais vous demander de m'accorder la possibilité de faire des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des dépenses d'investissement prévues en 2021. Donc, ces dépenses d'investissement de 2021 étaient de 1 772 187. Donc, je vous demande de m'autoriser à dépenser jusqu'à 443 046 jusqu'à l'adoption du budget. Voilà. Et ça concerne, bien sûr, seulement les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement continuent à être réglées comme tout au long de l'année. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Donc on est bien à la 8.
C'est ça, on est à la 8. Et je vais vous présenter une délibération concernant une convention avec le KM pour faire des interventions musicales dans les écoles, en tout cas dans les classes de primaire de l'école du Ginchet. C'est une reconduction d'une convention, ça fait 7 ans que c'est en place, depuis 2015-2016, on renouvelle. Et en termes de... Donc l'éducation musicale est assurée par 2 enseignants, membres donc du KM, avec des diplômes adéquats, et ils ont en responsabilité les différents niveaux, ils se les sont répartis. L'ensemble des heures d'intervention, c'est 108 heures au total, ce qui représente 20 séances d'intervention pour chaque classe, et ce sont des séances d'intervention de 45 minutes, et auxquelles on ajoute des heures de réunion, coordination, spectacle, Je tiens un spectacle de fin d'année, tout ça pour 10h30, et donc le total de 108 heures, représente en termes budgétaires 4 968 euros net, au tarif de 46 euros de l'heure. Voilà, donc pas grand-chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, oui.
Est-ce que les coefficients ou indices sont les mêmes que la convention précédente ou est-ce qu'il y a une évolution ?
Tu parles du...
Ben, je ne sais pas, soit 36, soit 0,75, soit 4.
Tout pareil.
C'est tout pareil ?
Tout pareil, le même nombre d'heures, même nombre de classes et le même prix par heure. Donc,
reconduction totale. Okay. Voilà, je propose de délibérer. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci à l'unanimité.
Merci. Délibération suivante, je laisse la parole à Marc Hébrard. Ça concerne une convention avec le syndicat mixte ADN Ardèche Drôme Numérique pour l'autorisation de ce qu'on parlait tout à l'heure, de passage d'une ligne pour la future fibre au-dessus d'un terrain communal.
Voilà, avec mon masque entre les deux.
Je vous rappelle juste que l'importance du micro, ce n'est pas forcément d'être entendu, mais d'être enregistré. Voilà, pour les gens qui ne sont pas là.
Donc une convention ADN donc pour le déploiement du réseau de la fibre. Alors, je suppose que tout le monde y trouvera évidemment un intérêt à ce que notre commune soit reliée. Donc, le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, ADN, a transmis à la commune un projet de convention pour l'autorisation d'accès lié à l'utilisation d'une servitude ou d'un droit de passage existant pour le déploiement de la fibre optique, donc sur des terrains communaux. Il s'agit de la section cadastrale AH, numéro de parcelle 405 et AH 404. Voilà, donc c'est deux parcelles qui vont être utilisées, qui vont être sur lesquelles ADN va disposer des lignes. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est du réseau aérien ou enterré pour ces lignes-là, c'est de l'aérien, je pense.
C'est aérien, mais oui. C'est au-dessus du château d'eau, aux Trois Croix.
Voilà, c'est ça, c'est aux Trois Croix, oui. Ok. Voilà. Voilà. Donc. Ah, bah super, il y a le schéma. Voilà, alors ADN, chaque fois qu'il traverse une parcelle, que ce soit publique ou privée, demande l'autorisation. Enfin bon, c'est un boulot administratif de complètement énorme. Et voilà, bon, ils font ça, ce qui prend énormément de temps. Et ce qui explique en partie d'ailleurs pourquoi ça traîne un petit peu, parce qu'il y a des propriétaires des fois qui sont un peu difficiles à contacter, des résidences secondaires, etc. Voilà, donc c'est un gros dossier sur le plan administratif. Voilà, donc je vous propose de le mettre au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ça fait une unanimité, je vous remercie.
Merci. Compte rendu des décisions. Alors, depuis 5 semaines, il y a eu un certain nombre de décisions. Le 30 septembre, la convention d'occupation précaire d'un local situé dans l'ancien collège au profit de l'association La Bizarte. Le 25 janvier, l'attribution du lot numéro 1 démolition maçonnerie dans le cadre du marché création d'un local d'archives à l'entreprise DCA pour 22 000 euros hors taxes. Le 25 janvier aussi, le lot 4 des rayonnages mobiliers pour les archives à l'entreprise Samodev Forster à Nanterre pour 22 000 euros. Le 30 juin, oui, il y a beaucoup d'étagères. Le 30 juin, l'attribution plomberie chauffage pour les archives à l'entreprise Pellegrin de Dieulfi pour un montant de 3 303 euros. Le 30 juin aussi, l'attribution du lot électricité-ventilation pour les archives à l'entreprise Pellegrin aussi, pour 13 500 euros. Le 10 novembre, attribution du lot 8, plomberie chauffage dans le cadre du marché, création d'un local d'archives à Pellegrin Frères aussi, pour un montant de 3 300 euros. C'est deux fois la même. C'est deux fois la même. Bon, pourquoi il y a eu deux fois ? Il n'y a pas deux fois, bon. C'est deux fois le lot numéro 8. Je ne l'ai pas attribué deux fois. Hein. Bon. Bah, il n'y a pas tellement de raison de faire deux fois la plomberie. Et le même montant. J'aurais dû le lire avant. Le 10 novembre, la commande pour un relevé topographique du lavoir des Raymond jusqu'au rond-point du collège auprès du cabinet Valentin et Associés pour un montant de 5 800 euros. C'est afin de préparer la traversée du village et les éventuels travaux pour la limitation à 30 à l'heure. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de plan précis de toute cette traversée. Donc on a fait un petit appel d'offres et c'est le cabinet Valentin qui a été retenu. Donc ils ont commencé la semaine dernière, je pense, à prendre les mesures. Le 18 novembre, la demande de subvention auprès de l'État pour l'embauche d'un volontaire territorial en administration, dont on a parlé. Le 19 novembre, commande pour la taille et l'élagage d'arbres à réaliser sur 3 ans par l'entreprise Roustan et l'élagage pour 18 220 euros. Le 25 octobre, la convention d'occupation précaire d'un local à usage professionnel au rez-de-chaussée de l'ancien collège du 26 octobre au 31 décembre au profit d'une sage-femme qui est en fait un sage-homme et donc qui va s'installer dans les locaux les locaux partagés avec le planning familial hein, dans la partie extrême gauche de l'ancien collège. Donc le planning familial utilisait ce local que le jeudi après-midi et donc là on a eu une demande d'un monsieur qui est mailloticien et qui va donc s'installer le reste du temps. Donc là, c'est une convention jusqu'au 31 décembre, mais qui va être... Pourquoi c'est 2027 ? C'est 2027. C'était... Non.
2021.
Je remonte. 2021, ça va. Et donc cette convention va être évidemment prorogée ensuite de manière un peu plus... Voilà, clair. La décision du 25 novembre concerne la convention d'occupation précaire d'un local à usage. C'est la même chose. D'accord. Alors là, c'est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Voilà. Merci, madame.
Je peux préciser que l'intéressé, qui s'appelle Adrien Givaudan, compte démarrer son activité le 3 janvier prochain.
On se le dise. Et enfin, la décision du 30 novembre, demande de participation forfaitaire de l'État pour l'achat de capteurs de gaz carbonique pour les écoles publiques de la commune. Voilà, je...